Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une enquête est ouverte après des violences contre un homme dans le 17e arrondissement de Paris. Violences policières, la scène filmée et diffusée sur Internet a beaucoup fait réagir. Ce matin, 4 policiers sont suspendus. Retour sur cette affaire en début d'édition. Le ministre de l'Intérieur s'en est saisi hier soir. Nous ferons le point ensuite sur l'organisation des spectacles en temps de Covid-19. Spectacles assis, autorisés à la mi-décembre. Pour les concerts debout, il faudra encore attendre. Les banques alimentaires lancent leur campagne de collecte nationale aujourd'hui. Leurs besoins sont immenses, vous l'entendrez dans quelques minutes. Et puis, zoom sur la Cour suprême aux États-Unis. Après la nomination d'une juge conservatrice, elle a pris sa première décision hier contre l'aile libérale. Le producteur de rap passé à tabac samedi dernier par des policiers à Paris a donc porté plainte pour violence en réunion, insultes à caractère raciste, faux en écriture, violation de domicile et dégradation. Plainte déposée devant l'IGPN, la police des polices. 4 policiers ont été suspendus, une enquête est ouverte. Hier, devant les bureaux de l'IGPN, la victime et son avocate se sont confiés à Gaëlle Joly.
Le producteur de rap est sorti épuisé de son audition.
Je ne sais pas trop quoi vous dire, ça fait plusieurs jours que je dors pas beaucoup.
Pendant plus de 4 heures face aux policiers de l'IGPN, il a de nouveau raconté la violence de l'interpellation, les coups, mais n'a pas souhaité revoir la vidéo trop dure. Il réclame aujourd'hui des sanctions.
Moi je voudrais juste que le travail soit fait, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je vois que ça va assez vite. J'entends pas mal de choses, voilà.
À ses côtés, son avocate, maître Afida El Afi, précise que si l'on avance aussi vite, c'est uniquement grâce à ses vidéos. Elle attend maintenant une confrontation avec les policiers mis en cause.
C'est rapide parce que on se donne les moyens nécessaires et parce qu'il y a des vidéosurveillances. Parce que si on n'avait pas ces vidéos, malheureusement, mon client serait peut-être en mandat de dépôt aujourd'hui. À la suite, c'est les services de police en fonction de leur rapidité. On espère une confrontation dont mon client est prêt à y aller, bien évidemment. Contrairement aux services de police qui, en garde à vue, au départ, souhaitaient venir. Mais à partir du moment où ils ont découvert qu'il y avait des vidéosurveillances, l'ont refusé, puisque la vérité aurait été exposée au grand jour.
Selon l'avocate, les policiers n'ont toujours pas été entendus. Son client, lui, doit retourner à l'IGPN pour être de nouveau examiné par un médecin.
Hier soir, le ministre de l'Intérieur, invité de France 2, s'est exprimé sur ces faits. Gérald Darmanin demandera la révocation des policiers si l'enquête concluait bien à des violences. Vous entendrez le ministre dans le journal de 7h de France Culture tout à l'heure. Il s'est aussi expliqué sur les violences policières de lundi soir contre des migrants et journalistes place de la République à Paris. Un commissaire est notamment accusé d'usage disproportionné de la force par l'IGPN. Demain, les syndicats de journalistes maintiennent leur appel à manifester, à marcher, malgré l'interdiction de la préfecture. La colère des journalistes, elle a débuté la semaine dernière face à l'article 24 de la proposition de loi dite de sécurité globale. Il vise à encadrer la diffusion d'images de policiers et de gendarmes lors des manifestations. Le Premier ministre Jean Castex souhaite mettre en place une commission indépendante pour réécrire cet article. Elle devra rendre ses conclusions fin décembre. Jean Castex qui souligne par ailleurs que les stations de ski pourront accueillir du public en cette fin d'année, mais sans remontée mécanique, donc sans ski. C'est une aberration pour les professionnels de la montagne. Les conditions de réouverture par ailleurs pour d'autres établissements ont été précisées hier par l'exécutif. 8 mètres carrés par exemple par client dans tous les commerces et des spectacles dès la mi-décembre, Maxime Tellier.
Si tout va bien, le 15 décembre prochain rimera avec reprise des spectacles qui avaient pu redémarrer en septembre. Théâtre, stand-up, one-man show, cinéma. Mais pour les concerts debout, arrêtés depuis mars, l'horizon est plus lointain. Malika Seguino est directrice générale du PRODIS, le syndicat national du spectacle vivant.
Il faut construire un planning de tournée dans toute la France. Il faut recruter les équipes. Il faut faire à nouveau répéter l'artiste, ses équipes artistiques. Il faut mettre la billetterie du spectacle en vente. Tout cela, mis bout à bout, nécessite 3, 4, 5 mois. Tout dépend de l'importance du spectacle. Quand on va commencer à discuter de ce qu'on appelle, nous, les grandes jauges, les plus de 5000, les configurations stades, les arénas, les professionnels m'indiquent une reprise réaliste automne 2021.
Les professionnels attendent donc maintenant un calendrier plus précis et c'est justement à partir du 20 janvier que des scénarios de reprise pour 2021 vont commencer à se construire. La représentante du PRODIS demande le maintien de l'activité partielle et l'organisation de concerts tests pour
organiser le mieux possible la reprise en tenant compte de cet élément nouveau qui est le virus. mais également en ne malmenant pas l'expérience du concert.
Et de tels tests ont déjà eu lieu en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas. Reste une autre demande, que le ministère de la Santé soit aussi dans la boucle et pas seulement celui de la culture.
Maxime Tellier pour France Culture. Les banques alimentaires lancent leur grande collecte nationale aujourd'hui. Jusqu'à dimanche, des bénévoles gilets orange sur le dos seront donc présents dans près de 9000 magasins qui participent à l'opération. Cette collecte est primordiale pour les banques alimentaires. Elle représente 11% au moins des stocks à l'année. Et pour 2020, Arnaud Rozac, les denrées sont encore plus nécessaires à cause de la crise sanitaire.
Depuis le premier confinement, les banques alimentaires travaillent à flux tendu. Leurs stocks fondent comme neige au soleil face à l'explosion de la précarité, moins 22% par rapport au mois de novembre de l'année dernière. L'organisme bénéficie d'une aide de l'Europe grâce au FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis, mais c'est insuffisant. Preuve en est, les banques alimentaires ont acheté des denrées grâce à des subventions de l'État, une première en 36 ans d'existence. Les bénévoles sont inquiets, tout comme les autres associations. Les banques alimentaires présentent sur tout le territoire se trouvent au sommet de la chaîne de redistribution. Elles recueillent puis fournissent des vivres à plus de 5000 organismes comme Emmaüs, la Croix-Rouge ou encore les Petits Frères des Pauvres. Mais les banques alimentaires risquent de rationner leur stock si la situation perdure. Si vous souhaitez faire un geste pour cette collecte nationale, deux possibilités. Soit vous rendre dans l'un des 9000 magasins participants dans toute la France, ou bien, et c'est une première cette année, une plateforme en ligne est disponible pour ceux qui veulent éviter les grandes surfaces pendant cette épidémie. Ça s'appelle monpaniersolidaire.org. Votre don prend la forme d'un panier de courses virtuel distribué ensuite à la banque alimentaire la plus proche de chez vous.
Arnaud Rozac, et j'ajoute ce rapport publié hier soir par l'Observatoire des inégalités. La crise économique engendrée par le Covid-19 risque plus fortement d'aggraver la précarité des moins de 30 ans. Voilà ce qui est écrit par l'Observatoire. Les moins de 30 ans représentent déjà près de la moitié des pauvres en France. Donald Trump accepterait de quitter la Maison Blanche. Il y consent, en tout cas, si, a-t-il dit hier soir, si la victoire de Joe Biden est confirmée par le collège électoral. Autrement dit, si les grands électeurs américains qui doivent se réunir mi-décembre votent pour le président élu démocrate. Donald Trump qui, par ailleurs, avait nommé en septembre dernier, avant la présidentielle, une nouvelle juge conservatrice à la Cour suprême. Il espérait ainsi faire pencher la balance en ce sens. Elle penche en tout cas en faveur des religieux suite aux restrictions de culte. Les rassemblements, finalement, ne seront pas limités aux États-Unis. Sébastien Paour.
C'est la première décision à laquelle Amy Coney Barrett participe et elle inverse la majorité à la Cour suprême. La plus haute institution judiciaire du pays a donné raison aux gouverneurs de Californie et du Nevada en mai et en juillet dernier. Ils peuvent limiter le nombre de personnes dans une église ou une synagogue à cause de la pandémie. Mais cette fois, la donne n'est plus la même. La nouvelle juge nommée par Trump il y a un mois pour remplacer Ruth Bader Ginsburg est en poste et la très conservatrice juge Barrett ajoute sa voix à la défense des libertés religieuses. L'équilibre est toujours de 5 contre 4, mais il n'est plus en faveur de l'aile libérale. La Cour était saisie par le diocèse catholique de Brooklyn et par deux synagogues ici à New York. Ils n'acceptaient pas la décision du gouverneur Andrew Cuomo de limiter le nombre de personnes pouvant se réunir dans les lieux de culte. 10 en zone rouge où le virus circule beaucoup, 25 en zone orange, même quand les établissements peuvent accueillir un millier de fidèles.
C'est un procès inédit qui s'ouvre ce matin en Belgique à Anvers, celui de 4 Iraniens accusés d'avoir fomenté un attentat en France en 2018 contre les opposants au régime iranien. Ils s'étaient réunis à Villepinte. La France avait accusé à l'époque le ministère iranien du renseignement. Et c'est la première fois aujourd'hui qu'un diplomate iranien est jugé pour terrorisme en Europe. Explication d'Angélique Bouin.
C'est la justice belge qui a mené l'enquête, car en ce matin du 30 juin, ce sont des policiers belges qui évitent in extremis un carnage. Grâce à un renseignement, ils interceptent près de Bruxelles un couple d'origine iranienne. Dans leur Mercedes qui a pris la route vers Villepinte, ils mettent la main sur 500 grammes d'explosifs et un détonateur prêt à l'emploi. La bombe, si elle avait explosé, aurait sans doute tué et provoqué un mouvement de panique vu la foule attendue. Mais dans ce procès, c'est le commanditaire présumé de l'attentat qui retient l'attention. Assadollah Assadi, 49 ans, il est alors diplomate en poste à l'ambassade d'Iran à Vienne et ex-haut fonctionnaire du ministère iranien des renseignements. Arrêté en Allemagne, il est remis à la justice courant 2018. C'est lui qui aurait tout organisé, tout financé. L'attaque a été conçue au nom de l'Iran et sous son impulsion, il ne s'agissait pas d'une initiative personnelle, écrit le patron de la sûreté dans un courrier au parquet vu par le journal Le Monde. Cette affaire, instruite dans le plus grand secret par la justice belge depuis 2 ans, a généré de fortes tensions diplomatiques entre Téhéran et les Européens.
Angélique Bois. points pour France Culture. Des pluies sur la Bretagne, la Normandie et sur le Roussillon. Des nuages bas ailleurs. Voilà la météo du jour. Prévoyez 2 à 15 degrés du nord au sud. À 6h.